Très chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre nouvelle série intitulée « Est-ce vraiment que Jésus est mort uniquement par le traitement épouvantable et méchant de la part des Romains et des Juifs? Est-ce vraiment ainsi? Ça vaut la peine de réfléchir et de sonder les Saintes Écritures correctement, sérieusement. Nous allons donc à nouveau étudier 5 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Ceci est donc la 21e raison pourquoi Jésus doit mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Il est dit en Romains chapitre 5 verset 10 « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Romains 5, verset 10. La réconciliation nécessaire entre l'homme pécheur et Dieu est à double sens. La défiance qui caractérise notre attitude vis-à-vis de Dieu, elle doit faire place à la foi. Et la miséricorde de Dieu doit remplacer son courroux. Mais les deux changements n'ont rien en commun. J'ai donc besoin de l'aide de Dieu pour changer. Le changement qui doit s'opérer en moi ne peut venir que d'une source extérieure à moi. Le changement des dispositions de Dieu trouve son origine en lui-même. En fait, il n'y a aucun changement en Dieu. Il ne fait que accomplir son dessein de cesser de m'être hostile pour me devenir favorable. Les mots qui disent « lorsque nous étions ses ennemis » revêtent une importance toute particulière, car c'est à ce moment-là que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils bien-aimé. Romains, chapitre 5, verset 10. Alors que nous étions ennemis, oui, cela signifie, et oui, cela signifie que le changement de disposition en Dieu a précédé le nôtre. Nous étions encore ses ennemis autrefois. Nous ne lui manifestions pas nécessairement une hostilité déclarée, non. En effet, la plupart des hommes ne sont pas consciemment en guerre ouverte contre Dieu, mais leur hostilité est plus sournoise. Elle prend la forme de l'insoumission ou de tout simplement de l'indifférence. La Sainte Bible la décrit ainsi. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas, à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Notez Romains chapitre 8, verset 7. Voyez-vous, lorsque nous étions dans cette situation, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour porter nos péchés qui provoquaient sa colère et lui permettaient de nous traiter seulement selon sa compassion. Le premier geste de Dieu en vue de sa réconciliation avec nous fut d'ôter l'obstacle qui l'empêchait de se réconcilier avec nous, à savoir le péché. Le péché qui portait atteinte à sa majesté. car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Quand les ambassadeurs de Jésus-Christ portent ce message au monde, ils lui disent « Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » 2 Corinthiens 5, verset 20. Entendaient-ils par là que les hommes doivent modifier leur attitude à l'égard de Dieu? Non, non, non. Ils insistent surtout sur la nécessité d'accepter le geste antérieur par lequel Dieu se réconcilie avec eux. Considérons ce qui se passe au niveau des hommes en matière de réconciliation. Jésus déclare en Saint Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, et je prends parfois les citations dans mes nombreuses versions allemandiques, puisque je suis de langue allemande. Mais rassurez-vous, c'est presque absolument pareil chez vous. « Si donc, est-il dit, on a dit Saint Matthieu, chapitre 5, verset 23-24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes tout à coup que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, alors laisse là ton offrande devant l'autel, et va tout d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Ensuite, viens pour présenter ton offrande. » On a dit Saint Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. En disant, va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur, il fait comprendre que c'est au frère et à la sœur de retirer son jugement vis-à-vis de nous. Car c'est le frère, c'est la sœur qui a quelque chose contre toi, tout comme Dieu a quelque chose contre nous. Alors va, va pour te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur. Ça, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que le jugement que le frère ou que la sœur porte contre nous soit totalement annulé. Or, quand nous entendons l'évangile de Jésus-Christ, nous constatons que Dieu a déjà pris les devants. Il a fait ce que nous ne pouvions pas pour annuler. Oui, il a fait ce que nous ne pouvions pas faire pour annuler son jugement contre nous. Il a donc envoyé Jésus-Christ pour souffrir à notre place, à ta place et à ma place. La réconciliation décisive a eu lieu lorsque nous étions ennemis. De notre côté, la réconciliation consiste à accepter ce que Dieu a déjà accompli, comme nous recevons un don de valeur infinie. La 22e raison pourquoi Jésus doit mourir, la 22e raison, Jésus doit mourir pour nous amener à Dieu. Notez s'il vous plaît 1er épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Il est dit, Christ aussi, il a souffert une fois pour les péchés, lui, le juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1er épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Et notez s'il vous plaît Éphésiens, chapitre 2, verset 13, qui confirme que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, et moi y compris, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 2, verset 13. tout compte fait, Dieu est et il représente l'évangile. Le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Avant d'être de la théologie, la foi biblique est une bonne nouvelle. C'est comme des prisonniers de guerre qui entendent sur une radio cachée que les alliés ont débarqué et que leur délivrance n'est plus qu'une question de jours. Leurs gardes se demandent pourquoi ces hommes se réjouissent tellement. Mais qu'est-ce que cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'elle a de particulièrement quelque chose de bon? Eh bien, tout se résume à ceci. Dieu. Toutes les paroles de l'Évangile convergent vers lui, sinon elles ne sont pas une bonne nouvelle. Écoutez ceci. Ainsi, le salut ne serait pas une bonne nouvelle s'il ne faisait que de nous délivrer de l'enfer sans nous conduire à Dieu. Le pardon, il ne serait pas une bonne nouvelle s'il ne faisait que de nous soulager de la culpabilité sans nous ouvrir le chemin vers Dieu. La justification, elle ne serait pas une bonne nouvelle si elle ne faisait que de nous rendre juridiquement acceptables aux yeux de Dieu sans nous amener à la communion avec lui. La rédemption, elle ne serait pas une bonne nouvelle si elle ne faisait que de nous affranchir de l'esclavage sans nous amener à Dieu. Même l'adoption ne serait pas une bonne nouvelle si elle nous introduisait seulement dans la famille de Dieu, mais pas dans ses bras. Mes chers amis, cela est très important. Beaucoup de gens semblent embrasser la bonne nouvelle, mais sans embrasser Dieu. Le fait de vouloir échapper à l'enfer, cela ne prouve pas du tout que nous ayons un cœur tout nouveau. C'est un désir parfaitement naturel et non pas surnaturel. Point n'est besoin d'un cœur nouveau pour désirer l'apaisement psychologique que procure le pardon ou l'éloignement de la colère divine ou l'héritage dans un monde nouveau. Toutes ces choses, elles sont compréhensibles sans même que ne soit produit un changement spirituel véritable en nous. Il n'est donc pas nécessaire d'être né de nouveau pour souhaiter tous ces biens. Voyez-vous, les démons, croyez-moi ou pas, les souhaitent aussi. Certes, ce n'est pas un mal de les souhaiter, mais ce serait même de la pure folie de ne pas les désirer. Mais c'est le fait de vraiment vouloir ces choses parce qu'elles nous permettent de faire de Dieu nos délices qui prouvent qu'un véritable changement s'est vraiment opéré en nous. C'est le bien suprême pour lequel Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ aussi, il a souffert une fois pour tous les péchés, pour nos péchés. Lui le juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. 1er épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Mes chers amis, pourquoi est-ce là l'essence de la bonne nouvelle? Eh bien, parce que nous avons été créés pour faire l'expérience d'un bonheur total et durable en contemplant la gloire de Dieu, et en nous délectant de cette vision. Si autre chose que Dieu fait notre plus grande joie, eh bien nous sommes des idolâtres, et là nous déshonorons Dieu. Il nous a créés, Dieu, de sorte que sa gloire puisse se manifester par notre joie en elle. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle, et la nouvelle suivante, au prix de la mort de son Fils bien-aimé, Dieu a fait tout le nécessaire pour nous enthousiasmer parce qu'il nous rendra éternellement et toujours plus heureux, c'est-à-dire lui-même. Longtemps avant la venue de Jésus, Dieu s'est révélé comme étant la source de bonheur, du bonheur entier et durable. Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, nous dit le psaume chapitre 16, verset 11. Ensuite, il envoya Jésus-Christ souffrir afin de nous amener à Dieu le Père. Il l'a donc envoyé pour nous communiquer la joie la plus profonde et la plus merveilleuse qu'un être humain puisse connaître. Écoutez alors l'invitation de Dieu. Détournez-vous, est-il dit, de la jouissance éphémère du péché. Notez Hébreux, chapitre 11, verset 25. Et tout cela pour goûter aux délices éternels. Et venez, s'il vous plaît, venez maintenant à Jésus-Christ. Alléluia. La 23e raison pourquoi Jésus doit mourir. Jésus doit mourir. Pardon. Il doit mourir pour faire de nous sa possession. Il est dit, de même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été par le corps de Jésus-Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu notre Père. Romains chapitre 7, verset 4. Et notez s'il vous plaît 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Il est dit, vous ne vous appartenez point à vous-même maintenant, car vous avez été rachetés à un très grand prix. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Et n'oublions pas, Actes, chapitre 20, verset 28. Il est dit, prenez donc garde à tout le troupeau pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, verset 28. Donc, la question ultime, elle n'est pas de savoir qui, mais à qui vous êtes. Bien sûr, beaucoup s'estiment être les esclaves de personne. Je suis moi, esclave de personne. Je me suffis amplement à moi-même. J'ai besoin de personne. Alors il s'imagine totalement indépendant, comme par exemple une méduse qui est portée par le courant, elle se sent libre parce qu'elle n'a pas d'attache. Voyez-vous, Jésus avait une parole pour des gens qui raisonnaient ainsi. Il leur a dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons jamais été esclaves de personne, nous. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» C'est pourquoi le Seigneur a précisé, « en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est vraiment esclave du péché. » Notez Saint Jean, chapitre 8, verset 32 à 34. Il n'est donc pas du tout libre. La Sainte Bible ne reconnaît aucune réalité à des humains déchus qui se déterminent finalement eux-mêmes. Il n'existe aucune autonomie dans ce monde déchu. Ou c'est Dieu, ou c'est les péchés. Ou c'est les péchés qui nous gouvernent. Vous êtes donc esclave de celui à qui vous obéissez. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, évidemment. Mais maintenant vous êtes affranchi du péché et vous êtes maintenant esclave de Dieu. Romains chapitre 6, versets 16, 20 et 22. La plupart du temps, nous sommes libres de faire ce que nous désirons. Mais nous ne sommes pas libres de désirer ce que nous devrions. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle force qui est fondée sur une acquisition par Dieu. La puissance, c'est la sienne. Et c'est pourquoi la Sainte Bible déclare « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. » Romains chapitre 6, verset 17. Écoutez bien. Dieu est celui, maintenant, qui accorde aux hommes la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et qui espère que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 et 26. Il vaudrait la peine de répéter cela. Dieu, c'est lui qui est celui maintenant qui accorde aux hommes, et j'ajoute aux femmes, vous l'avez compris, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et qui espère que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux. Et ceci pour les soumettre à sa volonté. Donc la rançon qui libère cette puissance, c'est la mort de Jésus-Christ. Il est dit, vous ne vous appartenez point maintenant à vous-même, car vous avez été rachetés à un très grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Quel prix Jésus-Christ a-t-il payé pour acquérir ceux qui placent leur confiance en lui? Il les a acquis par son propre sang. Actes, chapitre 20, verset 28. Désormais, nous sommes vraiment libres, non pas pour être autonomes, indépendants, mais pour vouloir ce qui est bien. Une toute nouvelle façon de vivre s'ouvre donc devant nous lorsque la mort de Jésus-Christ devient la mort à notre vieil homme. La communion avec le Christ, vivant, remplace les règles et la liberté de la fertilité, elle remplace l'esclavage de la loi. Il est dit, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains chapitre 7, verset 4. Jésus-Christ a souffert et il est mort pour nous libérer, oui, pour nous libérer de la loi et du péché, et pour que nous lui appartenions. Donc l'obéissance, elle cesse alors d'être un fardeau pour devenir la liberté de porter du fruit. Sachez bien que vous ne vous appartenez pas maintenant à vous-même. À qui voulez-vous être, chers amis? Si c'est à Jésus-Christ, alors, oui, venez et appartenez-lui. Chers amis, je m'excuse parce que ma voix, elle n'est plus la même à ce grand âge de 92 ans. Mais je prie toujours avant de commencer pour qu'on puisse quand même me comprendre. Donc maintenant, la 24e raison. Pourquoi Jésus doit mourir? La 24e raison pourquoi Jésus doit mourir, c'est pour nous donner un libre accès au lieu très saint. Notez Hébreux chapitre 10, verset 19. Là il est dit, ainsi donc, frères et sœurs, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. La signification de la tente que les Israélites appelaient le tabernacle, dans laquelle ils offrirent un culte à Dieu, constitue un des grands mystères de l'Ancien Testament. Le mystère était sous-entendu, mais pas révélé très clairement. Quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et il est arrivé au mont Sinaï, Dieu a donné à Moïse des instructions précises pour la construction d'une structure mobile qui servirait de lieu de culte, avec ses différentes parties et son mobilier. L'aspect mystérieux était le commandement suivant, « Regarde et fais d'après le modèle qui a été montré maintenant sur la montagne. » Exode chapitre 25, verset 40. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, 1400 années plus tard, le peuple de Dieu a appris que ce modèle de tabernacle ancien n'était qu'une copie ou une ombre de la réalité céleste. Le tabernacle était donc une représentation terrestre d'une réalité céleste. Et voilà pourquoi il est écrit, les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Il a été dit par Dieu, le Père, à Moïse. Aie donc soin, lui a-t-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux, chapitre 8, verset 5. Toutes les pratiques cultuelles d'Israël dans l'Ancien Testament orientent le regard vers quelque chose de beaucoup plus réel. De même qu'il y avait un lieu très saint, dans lequel le souverain sacrificateur entrait avec le sang des animaux sacrifiés, et il rencontrait ainsi Dieu, eh bien, il existe au ciel un lieu très saint, infiniment supérieur, et combien, où Jésus-Christ est maintenant entré avec son propre sang, une fois pour toutes, et non pas comme les souverains sacrificateurs qui répétaient ce rite toutes les années. Notez bien Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12, où il est dit « Mais Christ, il est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création-là. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous avez noté Hébreux, chapitre 9, versets 11 et 12. Il s'ensuit donc que la voie que nous est désormais ouverte pour entrer avec Jésus-Christ dans le lieu très saint de la présence de Dieu, autrefois, seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans la copie et dans l'ombre de ce lieu-là. Seul le souverain sacrificateur pouvait donc entrer une fois par année dans le lieu très saint où résidait la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 9, verset 7. Un rideau protégeait l'accès au lieu de la présence de la gloire divine. Or, la Sainte Bible affirme que lorsque Jésus-Christ a rendu son dernier souffle, le voile du temple s'est déchiré en deux, et cela depuis le haut jusqu'en bas, et la terre avait tremblé, et les rochers se sont fendus. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 51. Qu'est-ce que cela signifie? La réponse, elle se trouve dans les paroles suivantes. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée maintenant dans le sanctuaire par la route toute nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20. Sans Jésus-Christ, Dieu le Père devait protéger sa sainteté de notre présence. Notre péché, le mien, tel que le tien, l'aurait totalement déshonoré de sa gloire, et sa gloire nous aurait été consumée. Mais maintenant, grâce à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous pouvons nous approcher et repaître notre cœur de toute la beauté éblouissante de la sainteté divine. notre présence ne déshonore donc plus Dieu, et nous ne serons pas consumés. Grâce à la protection parfaite pourvue en Jésus-Christ, Dieu est maintenant honoré et nous subsisterons dans une ou dans un émerveillement éternel. Et c'est pourquoi ne craignez pas de vous avancer, surtout pas, mais s'il vous plaît, approchez-vous par Jésus-Christ. Et 25e, pourquoi Jésus doit mourir? Eh bien, la raison que Jésus doit mourir, c'est pour devenir le point de notre rencontre avec Dieu le Père. Jésus leur a répondu, selon Saint Jean, chapitre 2, versets 19 et 21, il leur a dit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs ont dit, « Mais il a fallu 46 années pour bâtir ce temple. » Et toi, tu voudrais nous faire croire qu'en 3 jours, tu le relèverais. Mais Jésus parlait du temple de son propre corps. Jésus leur dit, tuez-moi, et je deviendrai le lieu de rencontre de l'homme avec Dieu. C'est ainsi que je paraphraserai Saint Jean, chapitre 2, versets 19 à 21. Vous avez entendu ? Tuez-moi, a dit Jésus, et je deviendrai le lieu de rencontre de tout homme, et j'ajoute de toute femme, avec Dieu. Alléluia. Or les Juifs, ils pensaient que Jésus se référait au temple de Jérusalem, détruisait ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ou ce qu'ils ne comprenaient pas, Jésus parlait de son propre corps. Pourquoi Jésus trace-t-il un parallèle entre le temple juif et son propre corps? Parce qu'il est venu pour remplacer le temple comme le lieu de rencontre entre les hommes et Dieu. La venue du Fils de Dieu dans une chair humaine allait entraîner de profonds changements dans les rites et les cultes. Jésus-Christ lui-même deviendrait ainsi le vrai agneau pascal. Il deviendrait le souverain sacrificateur ultime. Il deviendrait le temple final. Tout le reste passera, mais lui subsistera éternellement. Gloire à Dieu. Et ce qui allait subsister, serait infiniment meilleur. À propos de lui-même, Jésus a déclaré, je vous le dis, il y a ici quelque chose de beaucoup plus grand que le temple. Saint Matthieu chapitre 12, verset 6. En de très rares occasions, le temple devenait donc la demeure de Dieu lorsque sa gloire remplissait le lieu très saint. Mais de Christ, la Sainte Bible affirme, en lui habite maintenant corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. La présence de Dieu ne va et ne vient pas en Jésus, car il est Dieu également. Je répète, la présence de Dieu ne va et vient pas uniquement de Jésus, car il est aussi Dieu. Et oui, là où nous rencontrons Jésus-Christ, eh bien, sachez que nous rencontrons Dieu. Alléluia. Dans le temple, Dieu venait, il venait au-devant des hommes par l'entremise de nombreux médiateurs humains qui étaient absolument imparfaits. Mais les choses ont changé. Avec Jésus-Christ, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas un pape quelconque, mais c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Si nous voulons rencontrer Dieu dans l'adoration, il n'existe qu'un seul lieu où nous pouvons nous rendre, c'est vers Jésus-Christ. La foi chrétienne, elle n'a pas de lieu saint géographiquement comme l'islam et le judaïsme. Non, non, non. Un jour que Jésus reprochait à une femme sa vie d'adultère, voici qu'elle a changé de sujet et elle a dit, « Mais nos pères, ils ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem ?» Jésus a suivi le raisonnement de cette femme et il lui répond, « Femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'adoration de Dieu n'a rien à avoir avec la géographie. » Et Jésus a poursuivi, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Notez Saint Jean, chapitre 4, versets 20 à 23. Nous allons terminer cette étude. Chers amis, Jésus, il modifie radicalement les catégories. Il dit non pas sur cette montagne ou dans cette ville, mais uniquement en esprit et en vérité. Il est donc venu dans le monde pour briser les limitations géographiques. Il n'y a plus de temple. Jérusalem n'est plus le centre de la vie religieuse, ni à la Mecque ou à Rome. C'est uniquement Jésus-Christ. Désirons-nous voir Dieu le Père ? Eh bien, Jésus affirme que celui qui m'a vu, il a vu le Père. Saint Jean, chapitre 14, verset 9. Désirons-nous recevoir Dieu ? Jésus dit, celui qui me reçoit reçois celui qui m'a envoyé. » Saint Matthieu, chapitre 10, verset 40. Désirons-nous de jouir de la présence de Dieu lors du culte? Eh bien, la Sainte Bible déclare « Quiconque se déclare publiquement pour le Fils de Dieu a aussi le Père. » Première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 23. Souhaitons-nous honorer le Père? Alors Jésus indique comment? Il dit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Il n'a pas dit que celui qui honore le pape ou Mohammed ou Bouddha. Il a dit celui qui n'honore pas le Fils Jésus-Christ. Il ou elle n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Saint Jean, chapitre 5, verset 23. Voyez-vous, lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, le temple ancien fut remplacé par un Christ accessible dans le monde entier. Jésus-Christ, vous pouvez vous approcher de lui sans même faire un seul pas. Il est aussi près de toi, il est aussi près de toi par la foi que vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour vous encourager, mais aussi pour l'édification personnelle. Écoutez bien. Sachez que la grâce ne s'allie point avec le goût des choses de la terre. La grâce du Seigneur est d'un grand prix et ne souffre point le mélange des choses étrangères ni des consolations terrestres. Il faut donc écarter tout ce qui l'arrête et vous désirez qu'elle se répande en vous. Retirez-vous donc dans un lieu secret. Aimez à demeurer seul avec vous-même. Ne recherchez pas uniquement l'entretien de personnes, mais que votre âme s'épanche devant Dieu en de ferventes prières afin de conserver une conscience pure. Comptez pour rien le monde entier et occupez-vous de Dieu plutôt que des œuvres extérieures, car votre cœur ne peut être au Seigneur et se plaire en même temps à ce qui se passe dans le monde. Il vous faut sévrer votre âme de toute consolation terrestre. Et c'est ainsi que le bienheureux apôtre Pierre conjure les fidèles serviteurs de Jésus-Christ de se regarder ici-bas comme des étrangers et des voyageurs. Oh, qu'il y aura de confiance à l'heure de la mort, celui que nul attachement ne retient en ce monde. L'homme charnel ne connaît point la liberté de l'homme racheté. Cependant, pour devenir vraiment spirituel, il faut renoncer aux choses futiles et superficielle de ce monde. Si vous parvenez à vous vaincre parfaitement, eh bien vous vaincrez aisément tout le reste. La parfaite victoire, c'est de triompher de soi-même. Celui qui se tient tellement assujetti que les sens obéissent à la raison et que la raison obéisse en tout au Seigneur Jésus-Christ, il ou elle est véritablement vainqueur de lui-même. Si vous aspirez à cette haute perfection, il faut commencer avec courage et mettre la cognée à la racine de l'arbre pour arracher et pour détruire jusqu'aux restes les plus cachés de l'amour déréglé de vous-même et des biens sensibles et particuliers. De cet amour désordonné que l'homme a pour lui-même, naissent presque tous les vices qu'il doit vaincre et déraciner. Et dès qu'il l'aura subjugué pleinement, il jouira d'un calme et d'une paix profonde. Mais parce qu'il en est peu qui travaillent à mourir parfaitement à eux-mêmes et à sortir d'eux-mêmes entièrement, ils demeurent comme ensevelis dans la chair et ne peuvent s'élever au-dessus des sens. Celui qui veut suivre librement le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il renonce à toutes ses inclinations déréglées et qu'il ne s'attache à aucune créature par un amour de convoitise charnelle. Amen. Et maintenant, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton saint nom pour ce témoignage rendu à la vérité, cette persévérance indomptable, cet héroïsme que nous contemplons chez les premiers disciples du Christ au jour où tu établissais ton Église, non par la violence, mais par le rayonnement de ton Saint-Esprit. Nous t'en prions, fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Donne-nous de marcher sur les traces de ces témoins fidèles dans la foi comme dans les œuvres. Et prépare-nous à souffrir patiemment, même la mort s'il le faut, pour l'amour, oui, pour l'amour de ton Saint-Nom et de ton témoignage. Donne à notre Église et à la chrétienté tout entière le Saint-Esprit et la puissance, le Saint-Esprit et la charité. Car ton Christ bien-aimé nous a voués à la tendresse mutuelle, à l'unité profonde. Et c'est là, ô notre Père, le caractère distinctif et la marque prédestinée de la famille chrétienne ici-bas. Et c'est par le signe de l'amour fraternel que le monde reconnaîtra tes enfants jusqu'à la fin des âges. Amen. Et rappelez-vous, chers amis, que Dieu aime vraiment tous ceux qui ont eu l'humilité et le courage de reconnaître qu'ils étaient pécheurs et qu'ils ont accepté la main tendue de Jésus-Christ pour être sauvés. Dieu vous aime. Et il est donc de mon devoir de vous aimer de tout mon cœur, de tout mon être. Et maintenant, là où vous vous trouvez, auprès ou au loin, je vous enlace et je vous embrasse tous et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais pour terminer vous mettre un ou deux chants d'un lointain passé. C'est pas facile, parce que c'était en 1960 quand j'ai enregistré cela avec un appareil à bande, et cela a beaucoup perdu de sa netteté et il y a beaucoup de ratés. Et je vous demande de m'excuser. Mais si on entend quand même encore quelque chose, eh bien vous sentirez que le Saint-Esprit s'y trouve. Alléluia. Essayons donc.
Prend ainsi le train dans une rivière glacée. L'histoire dit que Bliss remonta à la surface et ne voyant pas sa femme, retourna la chercher. Réunis pour toujours dans les eaux glacées, ils sont morts ensemble. Le chant que nous allons interpréter fut trouvé dans leur valise. Il fut écrit le 20 décembre 1876. Son titre dit ceci, « Oh, quel bonheur de le connaître !» Il exprime simplement tout ce que l'Évangile apporte dans une vie.
Nous à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.